Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, Steve Fortin, bonjour.
Oui, salut.
Bonjour à vous deux. Alors, commençons par, évidemment, c'est la rentrée parlementaire qui s'en vient là dès le début de la semaine prochaine, mais là, ça se prépare et ça se prépare sur le terrain. On l'oublie, mais il y a une élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne, qui était le comté de Dominique Andelade. Alors ça, c'est le sud de l'île de Montréal, historiquement très, très libéral. Là, c'est moins clair, pas mal. Alors d'abord, est-ce qu'il va y avoir un 12e député de Québec solidaire à l'Assemblée nationale? Steve, je te demande en toi premier, là.
Ben, c'est l'élection à Québec solidaire de voir s'ils sont capables de percer là, parce que on est maintenant sur les terres privilégiées de ce parti-là. Après l'élection 2022, dans les cercles de Québec solidaire, là, les gens qui sont les plus impliqués, que ce soit du staff ou des militants, là, je veux dire, qui sont très près du parti, une des premières réflexions que j'ai lues, c'était justement qu'il faudrait commencer à regarder du côté de certains comtés à Montréal où les libéraux sont. Et ça, c'est le terrain de chasse politique privilégié pour Québec solidaire. Donc, c'est un test pour eux. Il faut qu'ils soient capables de prendre ce comté-là, parce que en région, ça va être de plus en plus difficile. Le même fossé qui se crée entre l'île de Montréal, idéologiquement un peu, là, ça se crée aussi entre Montréal et les régions, bien, ça se crée entre Québec solidaire et les régions. Parce que Québec solidaire, c'est un parti avant tout montréalais. Puis, ça va être à eux de voir s'ils sont capables de prendre ce comté-là. On ne connaît pas l'identité du candidat libéral encore, mais je m'attends à ce que le Parti libéral, qui lui aussi cherche à se relancer, réussisse à trouver quelqu'un quand même de solide pour opposer à Québec solidaire. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va se placer tout ça, parce que je suis certain que le Parti libéral ne va pas se coucher et laisser le champ libre là, à Québec solidaire là-bas.
Toi, Marie, tu penses ça aussi, là, que c'est pas gagné là, pour Québec solidaire d'entrée de jeu, que les libéraux vont vraiment avoir une superbe campagne dans ce coin-là? Je suis pas convaincu, moi. Comment tu vois ça?
Ben, superbe, là, faut voir, là.
Ah, tu vois déjà, Steve, une nuance. Mais écoute, avoir un 12e député pour Québec solidaire dans Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est pas impossible, mais ça va être difficile.
Ah oui?
Il faut quand même... Ben écoute, c'est pas joué d'avance. Là. Puis, j'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois, là, ils ont fait un gros rassemblement. Eux, ils ont le couteau entre les dents. Eux, ils veulent gagner cette partielle-là. Il y avait plus d'une centaine de personnes réunies. Les 11 députés sont là, sont vraiment partis pour le travailler. Mais non, c'est pas gagné d'avance, parce que ça reste que c'est un comté à la dernière élection où il y avait 3000 de majorité pour le Parti libéral du Québec. Tu me diras, oui, c'est la chef du PLQ qui était là, donc ça lui donne une prime à l'urne, comme on dit. Mais c'est pas gagné d'avance. Il va falloir qu'il le travaille. Mais je regardais quand même les derniers résultats électoraux. C'est quand même fou de voir la dégringolade du PLQ, qui est passé en 2014 de 11 000 voix de majorité, qui est ce qu'on appelle une majorité très confortable dans notre jargon politique, ce qu'on appelle un château fort.
Un bon comté, là.
La majorité,
un bien, bien beau comté.
Oui.
Puis à la dernière élection, le Dominique Anglade n'avait même pas allé chercher 3000 voix. Là. Elle était à 2700 voix. Donc, 2700 voix, ça devient quelque chose qui est très possible. Puis là, force est de constater qu'il y a un seul candidat qui est identifié, c'est celui de Québec solidaire. Il y en a un seul qui est sur le terrain. Il y en a un seul qui est en train de faire du porte-à-porte. T'sais, oui, François Legault a encore 5 mois pour déclencher l'élection. Mais tu sais, ça reste que si c'est émotif gagner une élection... voter, tu sais, la gagner vraiment, c'est mathématique, là. C'est le nombre de portes, c'est le nombre de pointages que tu vas avoir fait. Donc, Québec solidaire est en train de prendre l'avance. Et moi, ce que j'entends dans les officines libérales, c'est qu'il n'y a pas de candidat d'identifié à l'heure actuelle, puis il n'y a pas, tu sais, c'est pas dans les cartons encore, là. Donc, si le PLQ le veut, il va falloir qu'il se lève un petit peu plus de bonheur dans les prochains jours,
là. Oui, mais il me semble que Québec solidaire, en organisant déjà hier un rassemblement politique et tout ça, on monte les enchères vraiment, vraiment haut. Ça veut dire qu'on place la barre très haute et puis se planter à ce moment-ci. Déjà que ce parti-là, on va se le dire, là, le texte de Philippe Léger était excellent en fin de semaine dans le Journal de Montréal, d'ailleurs. Tu sais, c'est des lendemains qui déchantent, c'est de ça dont il parlait. On place la barre très haute. Si on mord la poussière, ben ça va être encore d'autant plus décourageant pour ceux qui sont dans ce parti-là, parce que là, là-bas, on vise la victoire et puis c'est tout. Mais ce sera pas facile, là.
Bon, moi, j'avoue que...
Ben, Gabriel Nadeau-Dubois fait déjà de la gestion d'attente, hein. Il a pas dit « ce comté-là est à nous, on va aller chercher », là. Il a commencé déjà à dire qu'on prend rien pour acquis. Donc, il fait de la gestion d'attente au niveau de ses membres. La beauté de la chose dans ce contexte-là, c'est que s'il le perd, advenant que Québec solidaire le perdrait, ils ont 4 ans encore devant eux avant la prochaine élection pour venir inscrire un autre momentum. Puis il y aura certainement d'autres partiels aussi d'ici la prochaine élection. Et s'ils le gagnent, ben là, ça peut être un événement. Tu sais, rappelons-nous, la CAQ, quand ils ont gagné dans Louis Hébert, ça a été un point tournant là, complètement, complètement extraordinaire pour la CAQ qui est passée d'une deuxième opposition à former le gouvernement quelques temps plus tard, là.
Mais là, moi, je ne vois pas comment QS peut l'échapper, mais là, vous allez me corriger peut-être, mais on a parlé du Parti libéral. Est-ce que la CAQ ont une chance quelque part de pouvoir performer? Ils vont sûrement attendre de présenter leur budget avec des bonnes nouvelles et tout. Est-ce que la CAQ va être compétitive là ou c'est réglé, c'est QS qui va l'avoir, point final?
Je mettrais pas de l'argent sur la table pour ça. Si tu veux mon avis, tout est toujours possible en politique, mais c'est pas un électorat, c'est pas un créneau qui est très fertile pour la CAQ. Je pense que d'ailleurs, Monsieur Legault va sûrement jouer l'agenda à ce niveau-là, où il va venir déclencher ça pas trop loin, parce que il lui reste 5 mois pour la déclencher. Je doute qu'il veuille finir sa session parlementaire avec ça, parce qu'il y a jusqu'au mois de juin pour le faire. T'sais, probablement qu'il va vouloir partir durant l'été avec une fin de session positive, avec des crédits budgétaires positifs. Donc, moi, je pense que ça va se faire peut-être plus tôt que tard, mais non, je n'investirai pas là-dessus, Guillaume, si j'étais toi.
En 2015, il y avait eu une partielle hein, dans ce comté-là. Taux de participation d'à peu près 24%. C'est drôle, une partielle, parce que là, c'est une partielle avec une attention nationale. Elle est toute seule. Il va y avoir, les yeux vont être rivés là. Je m'attends à un taux de participation peut-être un petit peu plus haut que 24%. On verra, mais je vois pas en tout cas comment on peut dire que Québec solidaire part gagnant là-bas, parce que c'est pas fait, c'est pas joué. Puis c'est vrai que les pourcentages ont monté, mais il va y avoir des questions. On va pas juste parler des questions qui ont rapport avec ce comté-là. Il va y avoir une attention nationale, puis les candidats, puis les chefs de parti vont être questionnés aussi sur des dossiers nationaux. Puis ce qui ronge en ce moment le Parti Québec solidaire, ça va continuer de le suivre tant que ce parti-là n'aura pas fini son introspection. Quand on va se lancer dans la partielle, les autres partis vont avoir tout le loisir de mettre les projecteurs sur ce qui divise et ce qui reste à régler au sein de ce parti-là. Et j'en viens encore, parce que j'ai souvent écrit là-dessus dans le passé, mais j'étais content que Philippe Léger en traite. Sur les questions identitaires, sur la langue française et tout ça, il y a un immense malaise chez Québec solidaire. Puis, dans un comté comme celui-là, où on va parler justement de la question de la langue à Montréal et tout ça, ben j'ai hâte de voir comment on va se dépatouiller, parce que c'est vraiment, mais vraiment pas facile de parler de laïcité, de langue, toutes ces questions-là chez Québec solidaire en ce moment. On marche sur des œufs tout le temps, et puis ça va les suivre.
Ouais, moi, en tout cas, je prédis pas un score soviétique à Québec solidaire, sans faux jeu de mots, à Québec solidaire dans ce comté-là, mais d'après moi, ça devrait bien aller.
Les paris sont faits!
Mes paris sont faits. On va voir si je vais devoir manger mon chapeau. Hey, il nous reste 2-3 minutes maximum, là. Steve, tu voulais absolument qu'on parle. On a vu les scores, là. Les enfants de 5e secondaire ont toutes les misères du monde à faire un test en français. Est-ce que c'est un effet passager directement dû à la pandémie ou ça cache un malaise infiniment plus vaste?
Laissez-moi, s'il vous plaît, référer la presse 2014, mais d'autres en avaient parlé. J'en avais parlé aussi à l'époque dans un autre média. L'ACFAS se produit en Outaouais, et puis le congrès là scientifique. Et une collègue à moi, j'enseignais comme chargée de cours à l'UQO à ce moment-là, Geneviève Carpentier aussi, puis elle produit une étude. C'est pas une étude empirique. Elle avait envoyé des questionnaires dans 3 commissions scolaires, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Puis, elle avait envoyé des questionnaires. Et ce qu'elle voulait voir, en fait, c'était documenter les effets de la difficulté à maîtriser la langue pour des nouveaux profs là dans les 3 ou 4 premières années. Elle avait envoyé des questionnaires. Il y en a une 50aine qui était revenue. Puis, quand elle a présenté ça, on s'en doutait déjà, on le voyait déjà ça. Mais par exemple, là, des témoignages comme celui-ci, pour corriger les messages aux parents, et là, c'est une enseignante qui est à sa 2e année à l'école, à enseigner au primaire. Pour corriger les messages aux parents et aux autres enseignants, j'utilise toujours mon ordinateur portable et le logiciel Antidote. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Je pense même que c'est grâce à ce logiciel que j'ai passé mon bac. Je l'utilise tout le temps quand je corrige et quand j'écris. Puis un peu plus loin, elle dira, il y avait des travaux d'équipe, les quelques examens écrits, tout ça, j'ai réussi à passer à travers ça. Mais et même l'épreuve universelle de français, c'est un des cours que j'enseignais d'ailleurs. Quand on échouait l'épreuve universelle de français, ben il y avait des cours de rattrapage. Puis tous les chargés de cours, à un moment donné, se sont tapés ces cours-là où on prend ceux qui ont échoué puis on les aide à travailler jusqu'à ce qu'ils réussissent, ils ou elles réussissent. Puis ça, on le voyait venir. Fait que je suis vraiment pas surpris de ça, mais ce que je constate, c'est que d'année en année, déjà que les problèmes de littératie en général au Québec parmi la population sont endémiques, mais c'est aussi dans le corps professoral. Dans le cas d'une 50aine de personnes qui avaient répondu, il y en avait à peu près 12 qui disaient qu'il y avait des carences importantes et que ça les empêchait presque de travailler.
Marie,
c'est difficile, là.
Marie, on va laisser le mot de la fin. Est-ce que Bernard Drainville qui doit dire, il me semble que ça va mal, c'est une tuile après l'autre. Est-ce qu'il peut au moins essayer de faire quelque chose là, par rapport à ça?
Ben la question de la priorité du français, là, il doit la mettre au centre de son action. Là. Je veux dire, c'est beaucoup plus large que juste la réussite éducative. C'est notre survie linguistique, c'est notre culture. Oui. Et là, ce que je trouve absolument déplorable aujourd'hui, c'est de voir Jean-François Roberge, ex-ministre de l'Éducation, qui pointe la pandémie en disant, je suis bien préoccupé, c'est la pandémie. Mais c'est le même gars qui, il y a 3 mois, avouait qu'il y a aucune mesure, aucun indicateur des retards qui ont été pris pendant cette même pandémie-là. Donc, je veux dire, on est mal foutu. Première priorité, c'est évaluer l'ensemble des retards puis investir au niveau de la qualité du français dès le primaire, dès le secondaire, mais beaucoup plus qu'on le fait en ce moment. Là.
Ben, peut-être
pour ce qu'on fait en ce moment, on baisse les standards à chaque fois.
Peut-être qu'on pourrait faire une copie au ministre. Hein? Écrivez 200 fois « Tout n'est pas dû à la pandémie » et le faire sans faute. Marie, mon petit, Steve Fortin, merci beaucoup. On s'en parle demain.
Salut.
Bye-bye.
À demain.